La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, il est l'heure de la Covidienne, votre quasi quotidienne d'information pendant votre confinement. Nous sommes ensemble pendant une trentaine de minutes. Au programme de l'émission du soir, Manon est allée à la rencontre de Hervé Desgrés, membre de Solidaire 49, qui nous parlera d'une pétition regroupant plusieurs organisations départementales qui appellent à préparer le jour d'après de cette crise sanitaire. Plusieurs revendications seront évoquées et cela se passera en première partie d'émission. En seconde partie et pour clôturer cette émission, Iris est de retour pour une nouvelle chronique. Vous êtes en couple ou célibataire, votre situation sexuelle peut vous préoccuper. Rassurez-vous, Iris vous donnera plusieurs scénarios possibles mais aussi quelques idées. On revient dans quelques instants. Pour commencer cette émission, comme convenu, je laisse la parole à Manon qui est allée à la rencontre de Hervé Desgrés, membre de Solidaire 49, qui nous parlera d'une pétition qui regroupe plusieurs organisations départementales et qui appelle à préparer le jour d'après. On se retrouve juste après.
Donc nous avons aujourd'hui dans notre Covidienne Hervé Desgrés. Bonjour à vous.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
Donc vous représentez aujourd'hui Solidaire 49 pour discuter avec nous d'une pétition commune des organisations départementales, notamment ATTC, CGT, FSU, Mouvement de la Paix, Union Syndicale Solidaire, XR Angers et Youth for Climate du côté de Maine-et-Loire, qui ont pour objectif de préparer donc le jour d'après sur différentes thématiques que nous allons aborder. Pour commencer, donc vous êtes donc investi dans une organisation syndicale. Comment est-ce que vous êtes retrouvé au cœur de l'Union Syndicale Solidaire 49? Quel est votre rôle? Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit point un petit peu là-dessus?
Oui, en fait, d'un point de vue historique, je suis salarié d'Orange, en fait, hein, anciennement France Télécom, et donc je suis syndiqué à un syndicat qui s'appelle Sud PTT, et donc Sud PTT fait partie de l'Union Syndicale Solidaire. Plutôt que de travailler chacun sur son secteur, je pense que c'est bien que tous les différents secteurs d'activité puissent se regrouper parce qu'on a un objectif commun. Donc je me suis un petit peu investi dans Solidaire. Voilà. Et donc mon rôle aujourd'hui, je suis en fait un des secrétaires de Solidaire 49, qui est une organisation départementale qui a des liens avec Solidaire national, évidemment.
Et vous trouvez ça important de pouvoir s'investir dans ce genre d'organisation lorsqu'on est salarié?
Ah oui, car oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, pour moi, c'est primordial, en fait, déjà d'être syndiqué. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être pas obligatoire, mais plutôt que chacun devrait avoir conscience que c'est très important et de le faire. Le panel d'organisations syndicales qui existe est suffisamment large et il y a suffisamment de différences pour qu'on puisse se retrouver dans chacune d'entre elles, en fait. Pour moi, c'est important de vouloir créer un rapport de force avec son patron, en fait, qui puisse être un peu plus égal que celui qui existe aujourd'hui entre un patron et son salarié, quoi. Donc le collectif, c'est très important, d'où l'idée, en fait, de syndiquer pour créer un collectif et après de pouvoir discuter avec un niveau un peu plus fort, hein, avec son patron.
Et vous venez donc notamment nous présenter aujourd'hui une pétition nationale lancée conjointement avec 15 organisations associatives syndicales que j'ai pu citer en introduction. Vous l'avez appelée donc « Plus jamais ça, sinon pour le jour d'après ». Quels sont les éléments les plus compliqués auxquels vous devez faire face habituellement, qui ne devraient pas spécialement exister et pour lesquels vous vous battez en quelque sorte?
Au départ, ça part d'une tribune qui avait été réalisée par une vingtaine d'individus qui sont membres ou porte-parole ou secrétaires d'associations, que ce soit genre Oxfam, Greenpeace, d'associations écologistes, ou du droit au logement, d'associations syndicales comme la FSU, Solidaire, la CGT, et puis d'autres que j'oublie, ATTAC aussi. Hein. Et donc c'est une tribune nationale qui après a été reprise par les organisations et qui ont eu l'idée, en fait, de faire une pétition, de lancer une pétition et de préparer, en fait, les salariés et les non-salariés à ce qui se passera après le confinement et après la crise sanitaire. Donc au niveau local, en fait, le Solidaire, on fait partie d'un collectif, en fait, d'organisations associatives, écologistes, féministes, syndicales, qui organisent régulièrement les marches climat. Hein, avec notamment des organisations comme Youth for Climate. Et puis au sein de ce collectif, on a eu l'envie en fait de reprendre la pétition nationale et de la promouvoir en fait.
Avec la situation actuelle, les plans de relance de l'économie française sont au cœur des préoccupations gouvernementales. Est-ce que vous pensez que ces priorités établies risquent de créer des problèmes majeurs du côté des salariés, entreprises, employeurs, etc.?
Dans le collectif, là, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse profiter, si on peut le faire, de cette situation vraiment exceptionnelle qui met en évidence un gros déficit de l'État quant à la préparation d'une crise sanitaire comme celle-là, avec le fait qu'on a désindustrialisé la production et délocalisé la production des équipements de type masque, blouse, etc. Qu'on a aussi délocalisé la production des médicaments, notamment ceux qui servent à ceux qui sont hospitalisés en réanimation avec des produits à base de curare. Là, on a plus de quoi en fabriquer suffisamment. Donc l'idée, c'est de vouloir faire en sorte qu'on se serve de cette crise pour se dire que le néolibéralisme qui a été utilisé depuis quelques années et qui a détruit en fait le service public, eh bien on arrête ça et puis on fait quelque chose d'autre à la place, en intégrant l'idée quand même que cette crise-là, elle va s'inscrire dans une crise qui est aussi importante, qui est le réchauffement climatique, et qu'il nous faut impérativement en fait ne plus participer au réchauffement pour que la majorité de la population puisse vivre convenablement. Et en fait, ce qu'on entend du gouvernement, là, et aussi du syndicat de patrons, du MEDEF, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on va passer à côté. Ils sont pas là-dedans, ils sont... à la fois, on nous dit « protégez-vous, restez à la maison », et on voit bien que là, on nous dit « il faut retourner au travail ». Pour reproduire, il faut refaire des richesses, il faut... en fait, on repart pour refaire la même chose, en fait.
C'est important de pouvoir un petit peu attaquer conjointement les différentes thématiques qui vous tiennent à cœur et qui devraient tenir à cœur aussi l'ensemble de la population et du gouvernement.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est l'occasion en fait hein, de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché là. On a fermé en fait à l'hôpital. Il y a eu la tarification à l'acte qui a mis en concurrence les hôpitaux avec le secteur hospitalier lucratif. Il y a eu aussi l'injonction de réduire les déficits des hôpitaux, ce qui a conduit à des fermetures de lits, des suppressions de personnel. On voit bien qu'en cas de pandémie comme aujourd'hui, c'est pas possible, on n'y arrive pas, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il faut recréer, en fait, il faut refaire un plan, remettre de l'argent dans le service public, en fait, et recruter de nouveau des personnes, recruter du matériel, et puis aussi en profiter pour augmenter les salaires de tous ceux qu'on voit qui sont aujourd'hui impérativement nécessaires, à savoir tous les personnels soignants, tout ce qui est le secteur alimentaire et distribution, où les caissières qui sont en première ligne, en fait, sont souvent des personnes qui sont mal payées avec des temps partiels, et puis aussi dans le secteur alimentaire, la production agricole, en fait, où dans la plupart des ouvriers et des ouvrières agricoles sont payés avec des lance-pierres, en fait, au niveau du SMIC, quoi. Donc, tous ces salaires-là qui sont nécessaires, on le voit bien, c'est les seuls qui sont encore en activité et dont on a besoin, en fait, pour vivre.
En tout cas, à travers cette pétition, vous avez établi différents points, notamment 5 mesures que vous souhaitez que le gouvernement mette en place au plus vite de ce que je voyais. Par exemple, donc, l'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie. Est-ce que vous avez la vision que les préoccupations liées à l'économie surpassent en quelque sorte la protection des citoyens et leur santé?
Oui, on a un peu ce sentiment-là. Ne serait-ce que ce qui se passe dans l'inspection du travail aujourd'hui, là, on voit bien que Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, elle a demandé en fait à ce que les directions des directs fassent pas trop de contrôle en fait, hein, et que les contrôleurs, en fait, on les empêche un petit peu d'aller sur site pour vérifier si les conditions de sécurité sont bien mises en place, à savoir la distanciation, est-ce que les gens ont des équipements, etc., de protection des EPI, là, individuels. Il y a eu une mise à pied d'un inspecteur de la CGT récemment, là, qui voulait justement faire son travail, en fait, hein, avec l'obligation, là, on leur demande d'appeler d'abord l'employeur avant d'intervenir. Donc, ce qui peut permettre à un employeur de prendre les dispositions juste pour la visite, etc., quoi. Donc, alors qu'auparavant, ils pouvaient faire des contrôles sans prévenir, en fait. Il y a des consignes, hein, pour que l'inspection du travail, les contrôleurs et puis les inspecteurs, en fait, soient moins regardants, en fait. Donc, ça veut dire que clairement, on veut la reprise.
Au niveau des autres mesures, en tout cas, il y a aussi la régulation des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans l'urgence des masques, respirateurs, tout le matériel nécessaire pour sauver des vies, etc. Donc vous parlez un petit peu indirectement tout à l'heure. Il y a aussi la suspension immédiate du versement par les entreprises des dividendes, rachats, d'actions, bonus du PDG. Et je voyais aussi qu'il y avait la décision de ne pas utiliser les 750 milliards d'euros de la BCE pour alimenter les marchés financiers. Au niveau de la décision qui avait été prise justement d'utiliser cet argent pour alimenter les marchés financiers, vous demandez donc également une possibilité de financer des besoins sociaux et écologiques des populations. Est-ce qu'on peut constater avec toutes ces mesures que ces préoccupations sociales et écologiques sont notamment délaissées ?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Parce qu'on le voit aujourd'hui, par exemple, le gouvernement français, il y a pas longtemps, a voté 20 milliards d'aides aux entreprises. Il n'y a pas de contrepartie, en fait, au sens où on aurait pu imaginer qu'ils avaient utilisé cette aide-là en disant on vous donne de l'argent, enfin, on vous prête de l'argent, à la condition que vous investissiez dans les économies d'énergie ou dans d'un point de vue social, dans l'amélioration des salaires, des choses comme ça, recruter des salariés, etc. Il n'y a pas ces contreparties, en fait. Le gouvernement annonce qu'il va prêter 500 millions d'euros au groupe Fnac Darty. C'est pas un groupe qui a besoin tant que ça de... C'est un groupe solide, en fait. Hein. Ils font 20% de vente par Internet, donc ils sont pas encore à l'arrêt. Hein. Puis, ils ont un taux d'endettement qui est quasi nul aujourd'hui. On aurait pu imaginer qu'ils allaient plutôt privilégier Airbus ou Renault, qui peut-être sont des secteurs plus en difficulté. Donc, on préférait qu'ils privilégient tout le réseau PME, TPE, qui, eux, peuvent avoir des vraies difficultés de trésorerie avec un endettement important. Ce qu'on peut reprocher aussi, par exemple, c'est d'inciter, en fait, les entreprises qui sont aux côtés et qui ont des actionnaires. Ils ont juste incité, en fait, à ne pas distribuer de dividendes cette année-là. Mais c'est pas suffisamment fort comme incitation, parce qu'il y a quand même des entreprises, y compris où l'État a encore son mot à dire, hein, comme Orange, en fait, où le choix a été de quand même donner un dividende réduit par rapport à ce qui était prévu, hein, qui était de 70 ou 80 centimes, et qui sera de 50 centimes, en fait, par action. Donc on voit bien que il n'y a pas eu de décret ou de loi qui oblige les entreprises à ne pas verser de dividendes aux actionnaires.
Vous mettez aussi l'accent sur une volonté de paiement intégral des salaires pour les salariés au chômage partiel ou en arrêt maladie. Est-ce que vous pensez du coup que les diminutions de salaires liées au chômage partiel, arrêt maladie ou même on peut penser aussi aux indépendants qui sont dans une situation assez complexe auront des retombées importantes sur les foyers, les citoyens de manière individuelle puis collective ?
Oui, tout à fait, ouais, parce qu'aujourd'hui, là, avec les salariés qui sont au chômage partiel, en fait, touchent 82% du net. Donc, il y a des foyers pour qui les 18% qui sont pas là. En plus, il faut aussi rajouter qu'il y a peu parfois, il y en a qui peuvent avoir des primes qui sont liées à des pourcentages de vente et des choses comme ça. Et ça, ça sera pas présent, en fait. Hein. Donc, pour eux, effectivement, c'est une perte de salaire qui peut les amener, en fait, à être volontaires pour reprendre le travail rapidement. Pour les indépendants, c'est peut-être pire, en fait, la situation. Et pour aussi tous ceux qui n'ont pas qui ont une couverture sociale à minima. Et aussi ceux qui n'en ont plus. Hein. Là, c'est encore plus compliqué.
Ça risque, au final, de pousser les gens à se mettre en danger pour pouvoir s'assurer d'avoir de quoi vivre.
Voilà, c'est un peu le risque. Hein. C'est que les plus protégés aujourd'hui, ça va être ceux qui sont en télétravail. C'est pas ceux qui auront les plus petits salaires, en fait. Ce sont souvent les gens qui sont soit dans les bureaux, qui sont cadres, et qui ont des fonctions transverses, des choses comme ça. C'est pas l'ouvrier, c'est pas l'employé.
Hein. Au-delà donc des 5 mesures que vous avez mis un petit peu dans l'urgence, on va dire, il y a aussi des politiques publiques de long terme, donc pour pouvoir un petit peu faire face à de potentielles nouvelles crises, même si on souhaite ne pas en avoir à nouveau. C'est important de pouvoir anticiper le futur et de pouvoir se dire on ne veut pas que ça recommence, on ne veut pas se retrouver dans les mêmes situations qu'actuellement.
Tout à fait. On a arrêté en fait, de stocker des équipements de protection et on a dit aux entreprises et puis aux administrations de créer leur propre stock. Imaginons qu'en cas de crise, on pourrait toujours acheter des masques ailleurs, etc. Sauf que là, c'est une crise mondiale. Donc à partir du moment où c'est l'ensemble du monde qui est concerné, les pays producteurs se retrouvent eux aussi concernés et donc favorisent en priorité leurs propres citoyens pour la fourniture des masques et des équipements de protection. Donc on se retrouve dans une situation en fait où en absence de stock suffisant et en absence de capacité de production, on dit en France les masques, on commence par dire les masques ça sert à rien, on ne peut pas équiper les gens donc on commence par dire ça. Après il y a d'autres voix là qui viennent après quelques jours voire quelques semaines qui disent en fait peut-être que c'est quand même bien les masques donc on ne peut pas les fabriquer, on n'arrive pas à les acheter, alors faites-en vous-même. On ne peut pas pas imaginé de reproduire ça dans le futur, donc il faut impérativement qu'on puisse avoir des usines en Europe, en France, qui fabriquent des équipements de protection en nombre suffisant pour ce cas de figure si jamais ça se reproduit. J'ai lu, c'était dans le Casar enchaîné il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'exemple de Sanofi qui disait effectivement qu'ils allaient réfléchir à l'avenir à construire une grande usine en Europe pour pouvoir alimenter le marché européen, qu'on remplacerait 5 usines dans 5 pays différents par une grande usine quelque part. Donc il faut quand même se méfier un petit peu de ne pas retomber dans les mêmes... De ne pas en fait faire ce que le capitalisme fait depuis pas mal de temps, en fait, c'est de délocaliser là où c'est moins cher, ou là où la main-d'œuvre est moins chère.
Et vous réussissez au final à fédérer les citoyens avec tout ça? Est-ce que les personnes sont réactives face à cette nécessité de se mobiliser, donc dans l'écologie, le féminisme social, démocratique, c'est des thématiques qui touchent les gens et c'est des choses aussi qui réussissent à fédérer?
En temps normal, c'est-à-dire en hors période de confinement, ça fédère un peu, on arrive un peu, pas suffisamment, hein, mais à mettre ces thématiques-là sur le devant de la scène. Ah, bon, après, c'est repris, redigéré et retransformé, et c'est toujours insuffisamment pris en compte. Mmh. Mais on arrive quand même à le faire un petit peu. Aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on a, à la fois à l'intérieur de nos propres organisations et puis dans nos collectifs, c'est déjà à s'organiser nous-mêmes, en fait, pour qu'on puisse être en contact entre tous les syndiqués, déjà. Parce que là, en fait, à part par téléphone, visioconférence et des choses comme ça, il n'y a plus de rencontres physiques, quasiment. Hein. Mmh. On a des difficultés, compris pour les salariés qui ont des mandats syndicaux, qui sont membres de CHSCT, membres de CSE, membres de commissions sécurité, etc., qui voudraient se rendre dans un établissement pour vérifier que, effectivement, les moyens de mise en œuvre, en fait, pour protéger les salariés du Covid-19 sont bien en place. Même là, c'est difficile, en fait, hein, pour les personnes qui ont ce type de mandat, d'exercer leur mandat, en fait. Hein. Vu comment le déconfinement va se produire, ça va être compliqué, en fait. Ça va être très compliqué de pouvoir, en fait, effectivement, mettre ça dans la scène.
Donc, au final, à cause, en quelque sorte, de la situation actuelle, votre force de parole est encore plus atténuée qu'habituellement?
Oui et non, parce qu'en fait, on voit quand même... qu'au niveau, en fait, de l'information qu'il y a dans les médias aujourd'hui, là, les médias locaux sont un petit peu en peine de sujets, en fait, hein, parce que pour eux aussi, hein, pour les journalistes, je pense que c'est compliqué aussi d'avoir des informations. Donc, quand on leur propose, en fait, des thématiques, ça peut être repris et...
Quelles sont au final vos attentes avec, entre autres, cette pétition? Est-ce qu'en lançant un mouvement comme celui-ci, on s'attend par exemple à pas forcément avoir tous les résultats attendus, mais réussir à faire avancer un petit peu les choses malgré tout?
Je pense qu'au niveau des pétitions, en fait, on voit bien quand une pétition atteint un nombre assez important de signataires, l'ensemble des médias reprennent les sujets et ça crée des discussions, en fait. Hein. Et donc les personnes qui sont défavorables à la pétition rencontreront des personnes favorables et ça crée du dialogue. Et les idées peuvent être mises en avant et reprises après. Ça permet aussi, entre organisations, qu'on ne perde pas le contact. C'est un objectif qu'on a depuis longtemps, en fait, hein, de remettre le sens du bien commun et du service public, en fait, au cœur, de remettre l'idée qu'il faut révaloriser les salaires d'une grande partie de la population, que le réchauffement climatique va nous imposer de transformer nos vies à tous, hein, nos modes de vie, et qu'il va falloir agir à la fois sur les modes de fonctionnement du capitalisme, et puis nous Français, on est quand même dans un pays riche, en fait, où les richesses ne sont pas bien partagées, mais où on a un mode de vie qui est quand même très énergivore.
Vous avez déjà quelques retours, du coup, positifs par rapport à tout ça?
Non, enfin, retour positif au niveau de la pétition, je crois qu'il y a 120 personnes qui l'ont signé déjà, donc c'est pas si mal que ça. Au niveau de la structuration, en fait, des relations qu'on a, nous, au niveau local, on a remis en place, il n'y a pas très longtemps, entre les organisations syndicales, par exemple, Force Ouvrière, la CGT, la FSU et Solidaires, on a fait, il n'y a pas très longtemps, une conférence téléphonée, où on avait fait une lettre ouverte au préfet, en fait, en lui disant ce que nous ne voulions pas et ce que nous voulions, en fait. Hein. Puis, donc, au niveau intersyndical, ça fonctionne. Au niveau du collectif climat, c'est pareil. On remet ça en place au niveau local, hein, au niveau angevin. On remet ça en place, pareil, par vidéoconférence. Alors, le collectif pour le climat, on fonctionnait, en fait, en faisant des manifestations. Alors, de même que l'expression syndicale... collective se fait souvent par des manifestations, hein. On l'a vu au niveau des retraites avec pas mal de journées de grève et de manifestations. Là, bientôt, c'est le 1er mai. Le 1er mai, c'est clair qu'on ne va pas être dans la rue. Déjà, le confinement n'est pas levé, et puis ce ne serait pas prudent non plus. Donc comment on va continuer à être visible, en fait, y compris dans les entreprises qui vont continuer à faire du télétravail. D'autres difficultés qu'on a, nous aussi, autant on est capable de communiquer entre syndiqués d'un même syndicat ou d'une même structure syndicale, autant on peut avoir des difficultés pour dialoguer, en fait, avec les collègues avec qui on travaille d'habitude, parce qu'on n'a pas, la loi nous interdit de leur envoyer des mails à caractère syndicaux. De faire des diffusions de tracts, ça va être pas possible, en fait, de donner du papier avec peut-être une trace de virus dessus, etc. Donc, le mode de fonctionnement doit changer. Il faut qu'on réfléchisse à comment on va s'organiser pour pouvoir communiquer avec les salariés. Il va falloir aussi que les entreprises, peut-être, acceptent qu'on utilise les moyens technologiques modernes qui sont à disposition, comme le mail, etc.
Et en tout cas, donc, pour faire avancer les choses pour le moment via Internet, la pétition est disponible en ligne ?
Oui, elle est disponible en ligne sur plusieurs sites. On la retrouve sur les sites des syndicats, c'est sûr. Hein, sur le site de Solidaire, c'est clair. Je pense que sur le site de la CGT, de la FSU aussi, on devrait la trouver. Sur les sites des associations comme ATTAC, c'est sûr aussi. Y compris sur les autres sites, il y a des liens. Si on tape plus jamais ça, le jour d'après, on arrive sur l'endroit où elle est visible, en fait.
Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. En tout cas, on vous souhaite plein de courage pour la suite et on ne peut qu'inviter nos auditeurs à aller jeter un coup d'œil du côté de cette pétition qui vise à préparer donc le jour d'après.
C'est très gentil à vous de m'avoir invité, je vous remercie aussi.
Merci à Hervé Desgrés pour sa disponibilité et merci à Manon pour ce sujet. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec une chronique d'Iris pour parler sexe durant le confinement. C'est juste après Pat Cala et son titre Canette sur Radio Campus Angers.
Regarde par terre. Je préfère la canette à la grenade. Je dégoupille dans ma tête et c'est la guerre. Je préfère la canette à la grenade. Je vis sur ma planète, c'est une blague. La canette, ah. La canette,
la boue de grâce.
Baby, suma por la mamba.
Solino, Del Solino, Del Solino, Del Solino, oh, Solino, Del Solino, Del Solino, Del Solino, Del Solino.
Vous êtes sur Radio Campus Angers, je laisse la parole à Iris maintenant pour sa nouvelle chronique sur le sexe pendant le confinement. Bonsoir à toi Iris.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Juste pour contrarier, parlons de sexe. Sujet souvent mis à l'écart, oublié, négligé, très souvent confiné, mais si important pour notre santé psychologique et physique. Le sexe fait partie intégrante de l'être humain, sachez-le. Vrai besoin ou simple envie, comment gère-t-on alors la sexualité en ce moment? Confiné, ennuyé, stressé, reposé, relaxé, voici quelques-uns des scénarios. Commençons par ceux qui vivent une relation à distance. Empêchés de voir leur conjoint, la plupart affirment que c'est très compliqué sans contact physique. C'est sûr que par téléphone ou vidéo, à bout d'un moment, il y a quelque chose qui se perd. Des remises en question ou ruptures, les résultats ne sont pas très fameux. La sagesse de patienter n'est pas toujours au rendez-vous. Mais des solutions existent. De la masturbation au text-teasing, pourquoi pas essayer de nouvelles activités pour tenir le coup? Bon, mais en parlant de masturbation, les célibataires doctorants dans cette pratique, pour eux, ce n'est pas non plus très simple. Mais oui, plus de sorties, plus de tinderies. Pour beaucoup, la découverte de l'abstinence est donc devenue synonyme d'inconvenance. Mais pas de panique, Amazon is still going on. Pourquoi pas l'achat d'un nouveau jouet ou, pour les plus sociables, une sex party by Zoom? Allez les loulous, ça va passer vite, ça vous aidera à passer le temps. Alors que les célibataires veulent le quit, certains couples l'évitent. Confrontés à passer 24 sur 24 sous le même toit, des nouvelles facettes se révèlent. Pour certains, c'est une véritable épreuve. Accoutumés à se croiser de temps en temps, la cohabitation forcée fait monter la pression. Beaucoup découvrent que les liens sont fragiles et même superficiels. Un conseil, n'allez pas trop vite, il reste encore 2 semaines pour préparer vos valises. Mais heureusement que les scénarios ne sont pas si désastreux pour tout le monde. Le confinement peut être aussi un cadeau. Après les distanciés, les essoulés, les séparés, les divorcés, il y a aussi les consolidés. Ravis de se retrouver avec leur partenaire, ils profitent de chaque seconde pour approfondir leur relation. Et explorer des nouveaux horizons. Quelle chance de pouvoir passer du temps ensemble. On a même essayé des endroits chez nous qui nous étaient inconnus, disent-ils. Du comique au plus tragique, on voit qu'il y a un peu de tout. À la fin, nous découvrons que l'amour et le laisser-aller peuvent être la même chose. C'est marrant tout ça. Je vous souhaite une très belle fin d'émission et à très très bientôt. Petit rappel avant de vous quitter.
Merci Iris pour ce sujet. Nous approchons de la fin de l'émission et avant de se quitter, je vous propose d'écouter King Cruel et son titre Cellular sur Radio Campus Angers.
There's a massacre. hypocrisy, hypocrisy, all the shame. I can see it in the palm of my hand.
De clôturer cette Covidienne, vous pourrez, comme d'habitude, la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusangers.com, rubrique La Covidienne. Rendez-vous demain, même heure, et d'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous et passez une bonne soirée sur 103 FM.